J'aimerais rappeler que c'était co-organisé sur l'initiative de Manula, mais il y avait l'organisateur de la maison de prière de Hagolsheim, il y avait aussi le Harald Ecker, ce ministère allemand, et donc c'est à trois organisateurs qui a eu ensemble le discernement pour que ça soit pour cette fois-ci, pas un événement qui soit ouvert. Déjà, la place était petite, il a fallu, on voulait des Allemands, on voulait quelques Français représentatifs. Donc c'était un événement qui n'était pas public. Comprenez-le, c'est sur la demande des organisateurs pour cette fois-ci. Par contre, on veut partager ce qui s'est fait. Et on va être plusieurs à intervenir. J'aimerais juste commencer par 1 Pierre chapitre 2 et donner un fondement biblique à ce qui a été vécu. 1 Pierre 2, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et vous, au contraire, vous êtes plus loin, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui est maintenant être le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avait obtenu miséricorde. Et j'aimerais rappeler ce matin la dimension, c'est un mot un peu barbare, mais qu'on va réexpliquer, la dimension sacerdotale de l'Église et de chacun d'entre nous. Et vous savez, ça fait une référence à l'Ancien Testament. Il y avait une tribu en particulier, les Lévites, qui étaient appelés à servir dans ce temple de Dieu. Ils avaient un accès particulier auquel le peuple n'avait pas accès. Et puis, on parle de ce grand sacrificateur, le premier des sacrificateurs, qui, lui, avait cette opportunité d'aller dans le Saint des Saints, dans cette présence de Dieu particulière, qui était réservée juste pour lui, une fois par an. Bref, et puis, la révélation qui s'est passée, c'est à la réforme, c'est que cette notion de prêtre, d'accès à la présence de Dieu, c'était pour tout le monde. Et ça, c'était la grande, grande image de la réforme. Nous sommes tous des sacrificateurs. C'est pas réservé à une élite, c'est pas réservé à des prêtres, c'est pas réservé à des pasteurs. Donc cette notion de sacrificateur, nous sommes tous des sacrificateurs. Et là, c'est Pierre qui parle. Et Pierre, c'est un évangéliste. C'est pas un intercesseur particulier, c'est un évangéliste. Eh bien, ce Pierre, il a parlé de cette dimension du sacerdoce. Et donc, cette notion, ce qui est étonnant ici, c'est approchez-vous de lui. Approchez-vous de lui. Vous formez une maison spirituelle. Alors, juste quelques mots sur cette maison que l'on forme. Nous sommes tous des pierres vivantes, on forme une maison. Il y a plusieurs niveaux. Chacun d'entre nous, on est une maison. La cheminée, là, avec le feu à l'intérieur, nous sommes individuellement un temple de Dieu, une maison. Cette maison, nous la sommes aussi collectivement. En tant qu'église locale, nous sommes une maison, une famille. Et ça, c'est aussi une dimension très importante. Et puis, il y a la dimension régionale. Il y a une maison au niveau régional. Et ce qu'on a vécu le 11 novembre, c'est vraiment la manifestation de cette maison régionale qui est en train de se lever. Cette maison, c'est une maison de Dieu, faite avec des sacrificateurs, vous et moi, mais qui commençons à prendre conscience que Dieu établit une maison Suisse, France, Allemagne. Sur cette région des trois frontières, il y a une maisonnée spirituelle que Dieu est en train d'élever. Alors, on est beaucoup ici en tant qu'Alsaciens, on a du sang allemand, on a du sang suisse, on a un peu de tout, mais cette maison est en train de se lever. Ça commence par des relations, ça commence par prier ensemble, mais ces maisons de prière de Fribourg, d'Agolsheim, d'ici, parfois de Bâle aussi, eh bien, ensemble, on est en train de porter quelque chose, et c'est une des manifestations de ce lundi. Donc, approchez-vous, vous formez une maison spirituelle. Et puis, dans Hébreux 10, il est dit, verset 19, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi dans la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure. » Jésus, il a un ministère aujourd'hui, entre autres, qui est un sacrificateur. Il intercède pour nous. Et en tant que corps, nous intercédons. Donc Jésus, il est au niveau de l'autorité, il est sur le trône de Dieu, mais la Bible nous dit qu'il n'y a pas seulement un trône. Parfois, on pense qu'il n'y a qu'un trône, le trône de Dieu. Faux. La Bible dit, c'est l'apôtre Jean, il voit le ciel, il voit un trône et il voit des trônes, les 24 vieillards, etc. Donc le ciel, c'est cette image d'autorité. Quand je viens dans la présence de Dieu, je viens à son trône, d'accord ? Je m'élève à son trône, je suis accepté à son trône. Et le trône nous parle de gouvernement. Donc le sacrificateur, qu'est-ce qui passe ? Être sacrificateur, ça veut dire quoi pour nous aujourd'hui ? C'est-à-dire, je peux rentrer dans cette présence de Dieu. Cette présence de Dieu, c'est un lieu d'autorité, c'est un trône, c'est des trônes. Je me joins à cette suprême famille qui est la Trinité, qui exerce l'autorité, et afin que vous annonciez les vertus. Et de là-haut, j'annonce, je parle, je proclame, je déclare de cette position que nous avons collectivement. Parce qu'il n'est pas dit, sacrificateur, on a lu au singulier, il est dit, vous êtes un royaume de sacrificateurs. C'est ensemble. Donc, nous intercédons ensemble, nous déclarons ensemble. Et ce qui s'est passé le 11 novembre, c'était que ensemble, Suisse, Allemand, Français, on monte, on exerce notre sacrificature, on va dans la présence de Dieu, et là de ce trône, on commence à décréter, à parler et à libérer la vie. Donc cette sacrificature, cette maison conforme, c'est bien sûr tous ensemble. Et juste quelques points par rapport à ça, il y a une sacrificature éternelle. C'est-à-dire que Jésus, il intercède aujourd'hui pour toi, pour moi, pour nous. Et il veut nous joindre à cette intercession. C'est un peu bizarre. On pourrait dire, mais ça suffit. Si lui seul intercède, ça suffit. Mais Jésus a dit, non, non, vous êtes sacrificateur avec moi. La destinée d'Israël, c'était d'être une nation de sacrificateurs. Et pourquoi ? Pour que les nations soient bénies. Donc c'est quoi mon rôle de sacrificateur en tant qu'église ? C'est pas seulement pour mes petits bobos. C'est pas seulement, j'ai pas de travail, il faudrait que j'ai du travail. Dieu veut qu'on prie pour ça, bien sûr. Mais le rôle du sacrificateur collectif, ça dépasse bien plus les besoins personnels. Ça commence, on prend le fardeau qui est celui de Jésus, et Jésus veut que ce sacrificateur, cette intercession, ça soit pour que les nations soient bénies. Donc nous qui sommes en Alsace, c'est pas par hasard. La place géographique, c'est Dieu qui l'a voulu. Le fait que tu parles le français, c'est Dieu qui l'a voulu. Donc tout ça, ça parle d'un appel particulier. Et l'appel en Alsace, c'est particulièrement de travailler, de prier et d'être en relation avec nos voisins allemands et suisses et d'établir ensemble une maisonnée, une sacrificature. Donc dans Hébreux 7, il est dit de plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Donc, on a un sacrificateur permanent, éternel, c'est Jésus. Et on a l'occasion, nous, eh bien, de nous approcher de ce trône de Dieu, là où Jésus est en intercession permanente, et de ce lieu-là, eh bien, on est appelé à prier ce qu'il prie, et être ses temples qui laissent ses prières de Dieu dans le moment où il faut être libéré. En fait, on rentre dans une dimension éternel. Ça, c'est étonnant. On rentre, nous vivons dans le temps, là. Mais quand on va dans la présence de Dieu, on rentre dans une dimension qui est au-delà du temps. C'est-à-dire que ce que tu pries, ça touche, ça peut guérir le passé, d'accord ? Et ça peut toucher l'avenir. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et j'aimerais rappeler, en tant qu'église Josué, un des moments forts qu'on a vécu il y a pas mal d'années, nous n'avions pas de salle. Et nous nous promenions de salle communale en salle communale. Et on avait fait un tabernacle de louange un jour à Ufols, la petite commune de Ufols. Un bon temps de louange, vraiment. C'était un samedi soir, vraiment Dieu présent. On a prié pour les malades, etc. Il s'est passé des bonnes choses. On range les instruments, on range nos affaires. Et puis tout d'un coup, il y a 2-3 enfants qui se mettent à pleurer. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une dispute. Bon, on continue à ranger. Mais ensuite, c'est 5, 6, 7. Alors, et puis pas des petits pleurs, hein. Des pleurs. Oh, ça venait comme ça, là. Oh, c'était, alors, on était étonnés. Donc, les autres enfants, voyant ce qui arrive, et les ados, ça allait jusqu'à 15. les 8-12 ans à peu près, même un peu plus. Et alors, dès qu'ils approchaient de ce petit groupe qui pleurait, quoi, ils se mettaient aussi à pleurer de façon incontrôlée. Ça a duré une demi-heure, ça a duré une heure. Alors j'ai eu quelques-uns à calmer, les chasseurs de démons. J'ai dit, attendez, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. On va se mettre autour d'eux, on va prier. Et on s'est mis autour de ces enfants. Il y avait nos fils qui étaient là. Et puis, il y a un enfant qui a une vision. Et il dit, je vois un champ de bataille et des soldats qui meurent. Nous étions juste au-dessous du plus grand champ de bataille, un des plus grands de la guerre 14, le Hermannswillerkopf à Ufols. Ça a duré toute la nuit. Alors nous étions, chacun est rentré chez lui, mais les enfants, il y a une intercession toute la nuit, incontrôlable, inconsolable, inconsolable. Après coup, on a pu leur parler, et ce qui est étonnant, c'est qu'ils n'ont pas souffert. Ils ont vécu une présence de Dieu comme rarement, à tel point que l'un d'entre eux a dit, mais moi j'aimerais vivre encore ça. Il y avait à la fois ces cris qui sortaient, et puis à la fois la présence de Dieu. Je vous dis ça pourquoi ? Parce que il y a dans cette terre, il y avait une souffrance. Le sang, il est dans la terre et il crie. Et parfois, nous, on n'entend pas, on ne voit pas, on ne comprend pas. Mais la terre, elle crie et elle a besoin de guérison. Et Dieu a utilisé des enfants pour être à l'écoute de la souffrance de cette terre et pour l'exprimer devant Dieu. Et Dieu a guéri. Ça nous montre, ils ont joué ce qu'on appelle un rôle de sacrificateur. Et c'est-à-dire pour amener la guérison. On prend cette souffrance, c'est pas nous qui choisissons de le faire, hein, mais on prend et on la porte à Dieu. Eh bien, ce qui s'est passé le 11 novembre, à l'occasion des centenaires de l'armistice, une armistice inique, on va pas revenir dessus, mais faite de vengeance, faite de désir d'écraser l'autre, faite du mépris de l'autre, bref, eh bien, il y a pu avoir une repentance, un pardon donné les uns envers les autres, et il y a une guérison qui est venue. Et le cri de la terre, la souffrance de la terre d'Alsace a pu sortir. Ça, c'est le rôle de sacrificature de l'Église. Nous sommes appelés, Jésus dit, vous avez un ministère de réconciliation. Réconcilier, guérison. Et la guérison, c'est pas seulement la guérison individuelle. Merci Seigneur pour la guérison individuelle. Mais la guérison de la terre, la guérison des villes, la guérison des nations. Et donc, quand on va au trône de Dieu ensemble, on peut intervenir sur un passé, ce qui était enfermé comme souffrance, on peut le lâcher, on peut intervenir par rapport à l'avenir, parce qu'avec le Seigneur, on a un rôle de sacrificateur qui joue sur l'avenir aussi. C'est un peu étonnant, mais Dieu a choisi de gouverner avec ses enfants que nous sommes. Ça, c'est dingue. Il a dit, moi, je ne veux pas gouverner seul, je veux gouverner avec vous. Vous êtes un royaume de sacrificateurs. Donc, c'est ça qu'on a vécu. Et puis, cette sacrificature, c'est un peu comme dans Éphésiens 1, il est dit, vous êtes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Mais oui, mais c'est bien joli si je suis béni, Seigneur, selon Éphésiens 1. Mais comment faire descendre ces bénédictions ? C'est la sacrificature. Ce qui est prévu comme projet de bonheur, comme guérison, je le prends et je l'amène. C'est comme Heidi Baker ou Catherine Kuhlmann, quand elle priait pour des gens, elle voyait un bras par exemple paralysé, elle disait, mais moi je vais puiser dans le ciel, dans ses trésors, et je vais prendre un bras qui est saint, et je l'amène là maintenant, je prends ce qui est dans le ciel, et je l'amène. Et il y avait guérison, etc. Donc on prend dans le ciel, et on amène sur la terre. Et ça, c'est le rôle de l'Église. Le rôle de l'Église, c'est bien sûr d'annoncer l'évangile du salut, mais le rôle de l'Église est aussi de jouer un rôle de sacerdoce, un rôle de prière et de gouvernement qui change les choses du passé, qui brise les malédictions et qui amène la guérison dans les vies. Et ça, c'est un peu un travail, si vous voulez, de l'armée de l'air, quelque part. Hein. C'est cette armée de l'air, et on a vraiment vécu ça. Et je termine par rapport à cette sacrificature, toujours. Il est dit que, vous connaissez dans Romains 8, hein, la création qui attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création était soumise à la vanité. Et plus loin, il est dit, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Il y a un enfantement. La Bible dit que la terre entière, elle est dans l'enfantement. Mais l'enfantement de quoi? C'est quoi ce gros bébé qui doit venir? Eh bien, ce gros bébé qui doit venir, c'est des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et c'est déjà maintenant que nous vivons entre deux saisons, si vous voulez. Le royaume de Dieu, il est en train de venir, il n'est pas encore complètement là, mais il est déjà là. Et en tant qu'intercesseur, on fait venir ces choses. Et ça, c'est notre mandat. Et à la maison de prière, je termine mercredi soir, le texte qu'on méditait, c'était Ésaïe 55. Mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie, vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un moment perpétuel. Et mercredi soir, quand on priait avec David, Manuela, Vito, tout d'un coup, je vois ces pensées de Dieu, elles s'expriment comment? Par sa parole. Sa parole exprime les pensées de Dieu. Et alors, ces pensées de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il ensemence la terre. Les vies, les cœurs, mais pas seulement, la création est ensemencée. Et qu'est-ce qui se passe après? Semence, qu'est-ce qui se passe? Vous sortirez avec joie, les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Il y a une restauration de la création. Nous sommes appelés à parler la parole de Dieu. Nous sommes appelés à prier la parole de Dieu. D'une place d'autorité qui n'est pas une place de suppliant, mais qui est une place assise dans le trône de gloire avec celui qui intercède. Et libérer les oracles, annoncer les choses nouvelles, parler à la terre. La bénir. Ça vous est arrivé de parler à la terre, de parler aux forêts? C'est un peu dingue cela. Mais vous savez, dans l'histoire de l'Église, c'est déjà passé. Des gens qui parlent, je pense à Françoise d'Assise, hein. Ils parlaient aux loups, ils fermaient leur gueule. Hein. Ils les parlaient, mais avec amour. Hein. Ils parlaient aux... Il y a une relation à la terre, vous allez me dire. La terre n'a rien de Dieu. Dieu, il n'est pas dans la terre. Il est pas... Mais c'est la terre de Dieu. Voyez. Et donc, Dieu amène cette guérison. Et donc, quand on a libéré les pardons, on a exercé une autorité. Il n'y a pas de plus grande autorité que quand on libère le pardon. C'est ce qu'on a vécu le 11 novembre. Et là, j'aimerais donner la parole à David. Et David a fait un texte qui m'a énormément touché par rapport au couple franco-allemand. Et en écoutant ce qu'il va vous dire, j'aimerais que vous soyez interpellés par rapport à cette destinée de l'Église ici, par rapport à la France et à l'Allemagne, et à ce couple que Dieu veut utiliser. Soyez attentifs à ce que Dieu veut dire. Et c'est une forme un peu d'une belle parabole, mais voilà ce que Dieu veut faire, pas seulement avec l'Église de France, mais avec l'Église d'Allemagne.
Donc un peu comme Luc a dit, je veux parler par rapport à quoi? Par rapport à pourquoi vous parlez le français, vous habitez ici. Donc c'est un peu des compréhensions de ce passage en Actes 17 qui dit « Il a fait que toutes les nations humaines, issues d'un seul homme, habitent sur toute la face de la terre. Il a déterminé les temps fixés pour eux et les bornes de leur demeure, afin qu'ils cherchent Dieu pour le trouver si possible en tâtonnant. » Mais pour commencer, j'aimerais vous plonger dans une histoire. C'est une histoire ancienne. Elle a commencé il y a longtemps et de nombreux chapitres ont déjà été écrits. Nous allons rejoindre le récit en cours de route. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas trop perdus pour autant.
enfin vous y vivez déjà, en plein milieu, que vous le sachiez ou non. Donc je vous raconte l'histoire d'un gouverneur très obéissant et puissant. Il était expérimenté et bien capable de gouverner, mais c'est aussi une histoire d'une reine dotée de beauté, d'autorité et de splendeur aristocratique. Il vivait dans des royaumes voisins, mais ils n'étaient guère semblables l'un à l'autre, sauf si ce n'était dans l'autorité qu'ils détenaient chacun, tant dans le royaume que dans le monde plus large. Dans les chapitres précédents, leur relation a beaucoup fluctué, basculé entre l'envie, la jalousie, la lutte acharnée, la coexistence pacifique, la curiosité, l'honneur et même l'amour profond. Dire que la relation n'a jamais été très stable serait bien peu dire. Étant donné leurs différences de base, il n'était pas surprenant que leur relation soit difficile, puisqu'ils ne parlaient pas la langue de l'autre et qu'ils faisaient rarement l'effort d'essayer de l'apprendre. Ils ne pensaient et ne raisonnaient pas du tout de la même façon. Ces difficultés de communication compliquaient bien leur relation. Mais en même temps, ils s'admiraient secrètement et s'émerveillaient devant les talents et les compétences de l'autre. Par exemple, la reine vit chez le gouverneur un ordre et une efficacité qui pour lui semblaient faciles à atteindre et vivre. C'était naturel pour lui. Tout ce qui l'entourait semblait bien fonctionner. Dans cette impression d'ordre, la reine ressentait une sécurité qu'elle aurait aimé aussi expérimenter. Le gouverneur, pour sa part, était souvent stupéfait de l'élégance de la reine et du raffinement de sa vie, et de sa beauté. C'était non seulement une beauté en elle, mais une beauté qui l'entourait, elle et sa cour royale. Elle semblait aimer goûter à la vie dans tant de contextes. En plus, elle n'était pas dérangée lorsqu'une petite chose ne marchait pas exactement comme prévu. En effet, il semblait souvent y avoir un léger désordre dans son royaume. Mais la belle reine le prenait dans la foulée. C'est la vie, mais vécue profondément. Une partie de leur histoire difficile a été causée par la façon dont ils essayaient tous deux d'étendre leur royaume autant qu'ils pouvaient dans le monde entier. Ils cherchaient à trouver de la richesse, de l'admiration, et même leur identité dans la conquête et la domination des autres. Ils n'ont pas réalisé qu'on ne peut pas former une identité à partir de ce qu'on a accompli ou accumulé. Non, on peut seulement démontrer et renforcer une véritable identité en marchant dans ce pourquoi nous avons été créés. Un chapitre terrible de leur histoire s'est écrit lorsque le gouverneur s'imposa violemment à la reine. Il en résulta un enfant que ni l'un ni l'autre n'accueillit. Elle a grandi dans sa douleur pour devenir indépendante. Elle voulait peu avoir affaire à sa mère ou à son père. Elle prétendait même parfois qu'elle n'avait ni mère ni père. Mais sa ressemblance aux deux était impossible à ignorer. Après cette période douloureuse, cependant, le gouverneur et la reine ont vécu une vraie réconciliation. Ils se sont unis dans l'amour et ont donné naissance à un deuxième enfant. Cette fois, il était voulu des deux. Cet enfant a grandi et a apporté une paix dans la région des deux royaumes. Même des royaumes environnants ont pu l'expérimenter en raison de son influence significative. Bien qu'il soit différent du premier enfant, le deuxième enfant porte aussi une ressemblance frappante à ses parents. Il s'agit bien sûr de l'histoire du gouverneur de l'Allemagne et de la reine de la France. L'histoire est vraie et actuellement des chapitres très importants sont en train d'être écrits. Le premier enfant, qui se considère souvent comme orpheline, même si ses parents sont là, c'est l'Alsace. Le deuxième enfant, c'est l'Union européenne. Le 11 novembre, nous avons regardé 100 ans en arrière. C'est à travers de nombreux chapitres de l'histoire franco-allemande. Nous le faisons parce que, parfois, ce n'est qu'en prenant du recul et en corrigeant les erreurs du passé que nous pouvons correctement construire l'avenir. Ceux d'entre vous qui sont mariés depuis un certain temps savent que c'est vrai. Les problèmes du passé qui n'ont pas été réglés créent une base instable pour construire le présent et l'avenir. De temps en temps, dans la vie du couple, un temps de réconciliation peut s'imposer pour faire face au problème initial et à ses conséquences. Parfois, un couple marié renouvelle même ses vœux ou réaffirme son alliance. Il en va de même pour un couple marié que pour deux nations. Voici une nation féminine et une nation masculine qui sont destinées à marcher ensemble dans l'alliance. Le fait que nous parlions de la France comme reine et l'Allemagne comme gouverneur fait référence aux identités rédemptrices que Dieu a données à ces deux nations. Ce concept a été discuté et partagé par différentes personnes, différents auteurs, et on étudiait le sujet dans la prière. Cela nous amène donc au fait que Dieu s'intéresse aux personnes collectives, et dans ce cas, des nations entières. Dieu s'engage avec elles dans la progression du développement humain et de son histoire rédemptrice. Israël a été le prototype pour cet engagement avec Dieu à plusieurs niveaux. Donc, en touchant sur quatre niveaux principaux, Dieu s'est engagé avec eux en tant que groupe humain, une tribu, une race, le peuple juif, en tant que territoire géographique, c'est-à-dire la terre d'Israël, en tant qu'État politique, un gouvernement terrestre, l'État d'Israël ou le royaume d'Israël, en tant qu'une communauté d'adorateurs. En Exode 19:6, on lit « Vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation consacrée à mon service. » Il faut noter que c'était l'appel national originel de Dieu pour Israël. C'était après qu'il soit devenu une très grande tribu, une race, mais c'était avant d'avoir un territoire géographique et avant qu'il n'ait un gouvernement terrestre, un État ou un royaume. Ce n'est pas parce que ces choses ne sont pas importantes, c'est parce que la communauté d'adorateurs, le royaume des prêtres ou des sacrificateurs, c'est le fondement de Dieu pour l'expression rédemptrice d'une nation. Comme l'Église a été greffée dans l'olivier franc, la perle originelle donnée à Abraham pour être une bénédiction pour les nations est devenue aussi la nôtre. Nous sommes aussi appelés à être un royaume de prêtres, un royaume de sacrificateurs. Notre citoyenneté ou nationalité est d'abord céleste. Mais comme on vient de lire en Actes 17, nous sommes placés sur la terre dans des temps et des lieux spécifiques. Nous sommes là en tant qu'ambassadeurs afin d'être des canaux de l'établissement du royaume des cieux sur terre. Bien que cela puisse inclure les actions spécifiques et organisées, comme on a fait dimanche dernier, il s'agit avant tout d'être ou de vivre comme Jésus là où il nous a placés. Et ceci non seulement en tant qu'individu, mais en tant que royaume de prêtres. Le prêtre est celui qui représente ou intercède pour l'humanité devant Dieu, comme Abraham a fait pour son neveu et pour Sodome. Il est aussi un représentant de Dieu à l'humanité par ses actions et non seulement par ses paroles. C'est ce vivre comme Jésus qui ouvre un espace dans le domaine spirituel pour l'établissement du royaume. En Pierre 2:5 le dit bien, quand on vient de lire, « Prenez place vous aussi comme des pierres vivantes dans la construction du temple spirituel. Vous y formerez un groupe de prêtres consacrés à Dieu. » Donc ce temple est l'espace où Dieu demeure. Notre vie vécue en tant que sacrificateur consacré à Dieu ouvre cet espace pour l'établissement du royaume. Imaginons que nous prenions notre place collectivement en tant que citoyens du ciel dans cette région géographique du Rhin, sans tenir compte des frontières géopolitiques. Si nous prenions notre place comme des pierres vivantes, ce passage dans 1 Pierre 2 nous dit qu'un temple se construit. Un temple spirituel s'installe sur le Rhin. Donc y a-t-il une image que ça provoque, un temple sur un fleuve? Dans la Bible, dans Ézéchiel ou dans Apocalypse, dans Ézéchiel, le fleuve sortait du dessous du temple. Dans Apocalypse, nous voyons que ce qui poussait de chaque côté du fleuve portait des feuilles qui guérissaient les nations. Nous voyons aussi que l'eau dans le fleuve est une eau de la vie. Donc ces images sont puissantes et parlantes pour notre région géographique. La France et l'Allemagne ont des belles identités et des belles destinées chacune. Parmi leurs identités, on a souvent soulevé aussi l'idée que l'Allemagne, en tant que nation, est apostolique et que la France, en tant que nation, est prophétique. On voit dans Éphésiens 2:20, vous êtes devenus la maison qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Donc, l'Allemagne et la France ne sont pas uniquement clés pour l'Europe à cause de leur taille et placement géographique ensemble. Leurs identités spirituelles veut dire que s'ils s'unissent, les fondations de plein de choses peuvent être posées. Voilà, elles existent ensemble avec une destinée collective pour bénir l'Europe et le monde, Israël inclus. Dieu nous donne par contre l'ensemble une grande responsabilité dans l'accomplissement de cette destinée collective. Voilà, c'est pourquoi on était là le dimanche dernier pour cette action, mais comme dit, c'est aussi pourquoi qu'on est là dans la quotidienne où on se trouve. Nous y sommes en tant que nation céleste sacrificateur. Et nous sommes responsables pour nos territoires terrestres respectifs et notre grand territoire collectif. Nous sommes là afin d'agir selon cette responsabilité avec l'autorité que Dieu nous a donnée, comme disait Luc. Nous sommes là pour toucher avec lucidité et honnêteté les choses douloureuses du passé qu'on a fait dimanche dernier. Mais nous les touchons afin de nettoyer le terrain et préparer l'avenir. Nous pouvons donc poser des nouvelles fondations. Alors prenons cette responsabilité ensemble. Voilà.
Merci David. On n'aura pas le temps d'aller beaucoup plus loin. J'aimerais juste souligner la seigneurie de Dieu, que Dieu règne. En fait, le Seigneur nous a parlé de cette date, m'avait mis à cœur cette date au mois de septembre l'année dernière, après le séminaire à Bâle avec Harald Ecker. Et quand je voyais cette date, je voyais pas trop, parce qu'on avait vraiment à cœur d'inviter Harald. Et alors je l'ai partagé avec David et Vito, donc le comité Azaf de la maison de prière. Et c'est là qu'on a réalisé, Vito m'a dit, mais tu sais, c'est le centenaire de l'armistice. Et parce que Harald porte vraiment un manteau particulier, le Seigneur l'a vraiment appelé, c'est le ministère Global Prayer Call, de prier à des dates particulières pendant le jubilé, dans des lieux précis pour dénouer les choses du passé. Alors on a compris que le Seigneur avait une intention et qu'il prévoyait déjà. Et là, je voudrais souligner que notre Dieu règne. Il n'est jamais pris au dépourvu. C'est lui qui règne. C'est pas ce que les médias veulent nous montrer. Notre Dieu règne. Il règne. Et quand on est dans l'écoute, et c'est pour ça que je vous rappelle encore la maison de prière, je dirais que ça a été porté par les maisons de prière, ça a été enfanté par les maisons de prière, cette importance d'être des sacrificateurs. Nous sommes chacun individuellement une maison de prière et tous ensemble nous sommes une maison de prière. Et puis Fabrice m'a rappelé, alors que je l'avais déjà à cœur, il me dit mais tu devrais quand même appeler Pierre-Daniel Martin et en septembre déjà je disais je voulais appeler Pierre-Daniel et finalement je l'ai fait tard mais pas trop tard. Et voilà la lettre, j'ai appelé le 7 novembre Pierre-Daniel. Et voilà ce qu'il me dit. D'abord, Pierre-Daniel me dit au téléphone, ça fait un an que j'ai mis cette date dans mon agenda. J'ai été en Allemagne, j'étais à Black Forest avec 4 apôtres allemands et ils ont prié pour moi et on a prié pour cette journée. On savait que Dieu voulait faire quelque chose. Il faut savoir que nous sommes encore dans l'année du double jubilé, c'est-à-dire les 50 ans de Jérusalem et les 70 ans d'Israël. Et le jubilé, on le voit dans différents passages, je ne vais pas le faire maintenant, où c'est le temps où Dieu libère les esclaves, il libère la terre, il libère les gens, il libère les peuples. Donc on était vraiment dans cette fenêtre particulière où Dieu voulait libérer. Et donc voilà ce qu'il me dit. Donc à partir du 7 novembre, quand je l'ai appelé, il était en Suisse pour prier pour le 11, parce qu'il m'a dit, en fait, l'armistice a été écrit et rédigé le 7, mais les Français ont voulu le repousser au 11 parce que c'était l'anniversaire de la mort de Martin de Tours, un père de l'Église vraiment important. Et voilà ce qu'il me dit. Nous avons sonné du chauffard, jeté ensemble du sel pour purifier le Rhin, ils ont été aux chutes du Rhin, et avons annoncé que les écluses des cieux vont s'ouvrir pour ramener nos trois peuples à leur véritable destinée prophétique et apostolique, à partir des sources prophétiques et apostoliques qui coulent de la Suisse vers l'Europe. Nous avons proclamé qu'une époque est désormais close et qu'à partir du 11 novembre, la puissance du Saint-Esprit, le fleuve de Dieu, suivra le cours du Rhin pour répandre son onction sur les trois peuples, mais à partir de la Suisse. Et donc vraiment, que le Seigneur nous aide, nous fortifie à le chercher, à être dans son timing. C'est lui qui mène, c'est lui qui dirige, c'est pas nous. C'est pas une bonne idée. On n'a pas besoin de bonnes idées, comme le dit souvent Alana, on a besoin des idées de Dieu. Et Seigneur, nous voulons vraiment, en tant qu'Église, pas seulement en tant que maison de prière, mais le cœur qu'on avait vraiment, et on le fera une autre fois, parce que Vito n'est pas là avec nous, et Vito a vraiment aussi porté avec nous. Et Luc parlait tout à l'heure de parler à la terre, et pour ceux qui ont fait les marches d'intercession avec Vito, vous savez, et d'ailleurs il le dit, lui il est souvent pieds nus parce qu'il a besoin de ressentir la terre. Avec Vito on a appris, il nous a appris, il nous a emmenés à sillonner l'Alsace avec les marches d'intercession pour l'Alsace, avec la marche d'intercession où on a traversé la Suisse jusqu'à Marseille pour déboucher les puits anciens de la réforme. On a appris à parler à la terre. Bénédicte était avec, on en sait quelque chose, et combien c'était puissant quand on parlait à la terre. Je me souviens quand on voyait cette blessure au niveau de la, quand il y a eu la révolution, et quand on parlait à la terre, on voyait comme cette blessure qui se refermait. Et vraiment, on veut rendre grâce à Dieu. Et Seigneur, en tant qu'Église, nous voulons, pas seulement en tant que maison de prière, mais recevoir tout ce que tu as fait ce 11 novembre, qui était simplement une annonce prophétique, mais tu veux l'incarner. Et nous te disons oui, en tant qu'Église, nous voulons continuer à proclamer ce que tu proclames, à annoncer ce que tu annonces. Toi, tu annonces une Alsace restaurée. Tu annonces une Alsace qui est cet agent au milieu de l'Europe, comme elle l'a été au temps de Schumann et d'Adenauer, pour ramener l'Europe dans le Christ, dans la parole. Et Seigneur, nous déclarons que quelque chose s'est fait. Une porte s'est fermée et une porte s'est ouverte. Et nous déclarons, Seigneur, que nous voulons entrer déjà en tant qu'Église, comme sacrificateur, pour que l'Alsace rentre pleinement dans son mandat de ramener l'Europe dans le royaume. France, Allemagne, Suisse ensemble, bien enracinés dans notre racine hébraïque, les sources, Seigneur, et ce fleuve qui a coulé pendant toute cette journée que nous avons vue, Seigneur, nous l'appelons ensemble. Nous reconnaissons que tu es Seigneur, nous renonçons aux craintes, nous renonçons à regarder à nous-mêmes, mais ensemble nous voulons plonger nos regards en toi, sachant qui nous sommes en toi, Seigneur, ces fils et ces filles qui parlent en ton nom, qui avancent en ton nom, jour après jour, comme dit David, dans les lieux où nous nous trouvons, et aussi en tant que corps. Nous te rendons grâce, Seigneur. Et vraiment, nous bénissons la communauté que nous représentons, ceux qui étaient absents. Nous bénissons notre ville. Nous parlons la bénédiction de notre nation en vertu de qui tu es, Yeshua, de qui tu es, Seigneur. Et vraiment, nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Continue, cher Saint-Esprit, à parler à nos cœurs, à nous conduire individuellement et collectivement. Et nous voulons veiller à ce que la cheminée soit à l'intérieur de la maison, Seigneur. Et cette cheminée, cette maison nous parle de l'alliance, parce que nous sommes une maison, parce que tu as fait alliance avec nous. Alors on veut, Seigneur, vraiment revenir ensemble à la maison. Et nous appelons tous ceux qui sont en dehors de la maison à revenir à la maison. Revenir à la maison dans cette alliance avec humilité, sachant que tout ce que nous avons nous vient de toi. Et nous déclarons que ta bénédiction nous accompagne jour après jour, dans les hauts et dans les bas. Il y a aussi des bas, mais tu es avec nous, dans la vallée de l'ombre de la mort. Nous ne craignons aucun mal, parce que tu marches avec nous. Et nous disons honneur, gloire et bénédiction à ton saint nom, dans le nom de Jésus. Et avant de nous quitter, je voudrais encore vous appeler pour les dîmes et les offrandes. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qui s'est fait jusque-là. Et vraiment, nous croyons que le Seigneur nous amène au bout pour cette maison ici, qui est appelée à être un lieu pour bénir aussi la ville. Et alors, c'est avec joie que nous voulons amener nos dîmes et nos offrandes, sachant que nous apportons